On se tutoie
sur Nostalgie. Jean-Luc Reichmann.
Salut Jean-Luc.
Salut.
Salut Jean-Luc.
Bonsoir. Ah, vendredi 14 février, jour de la Saint-Valentin. Délicat ? Bah oui, vous allez me dire délicat. Qui ? Oui, qui inviter pour représenter au mieux l'amour sur Nostalgie ? Qui pour incarner l'élégance, la finesse, la tendresse, la délicatesse ? Bref, la nostalgie positive comme on l'aime le soir de la fête des amoureux. Un homme ? Une femme ? Un homme avec une hypersensibilité féminine ? Pour représenter l'amour en France, je me renseigne sur une personne que j'admire depuis des décennies pour son élégance, pour la qualité de ses propos, pour la finesse d'interprétation de ses chansons. Je m'aperçois en parcourant sa bio que celui-ci a fondé les Checkers Douille, qu'il est repéré par Jacques Dutronc pour jouer dans son orchestre et qu'il devient même choriste dans la chanson qui gagne l'Eurovision en 1971. En parcourant sa discographie, je découvre qu'il a été révélé par Claude François, qui finalement, voyant son succès arriver à grands pas, lui tourna le dos en lui claquant la porte, clo-clo, étant d'une jalousie maladive. Il se lance en solo et alors que sur la route il faisait joujou à la casse, il prend un coup de bambou en rencontrant Gainsbourg qui dégustait un whisky glace. Étant fraîchement célibataire, il fredonne alors « Adieu mon cœur, mon bébé chanteur, j'ai des traces de toi, mais finalement je suis tombé amoureux de Madonna. Madonna. » Plus tard, au bar, il nous avouera qu'à ses côtés, Manu rêva en ayant la fièvre dans le sang et vu que sa vie avait un petit goût de paradis, il finira par nous chanter « Bon baiser d'ici ». En ce jour de la Saint-Valentin, je me pose la question comment arriver à le définir pour, au mieux sans vulgarité, vous l'introduire. C'est alors que je recherche dans le dictionnaire la définition du mot dandy. Un dandy est un homme qui cultive une apparence raffinée, une élégance sophistiquée et des manières distinguées, souvent avec une ironie, un détachement aristocratique, cherchant à se démarquer par son originalité et son raffinement. Finalement, avec l'impertinence de son impermanence, il accepte mon invitation en me déclarant tout de go en chanson « Souris, puisque c'est grave, car finalement, tout s'arrange ». Il m'avait tutoyé dans ses chansons avant même que je ne lui pose la question « On se tutoie ? Bonsoir Alain Chamfort
». Bonsoir, quelle histoire !
Ah oui, c'est une histoire, oui. Ah oui. Là, c'est une belle, belle histoire. Mm-hmm. Et donc la question rituelle, bien sûr, « On se tutoie ?»
Oh bah bien sûr.
Et ouais, parce qu'en plus, dans tes chansons, tu nous l'as dit, souris puisque c'est grave.
Ah ouais, bah je tutoie beaucoup dans mes chansons.
Ouais.
C'est aperçu, bah oui, c'est quand même, on s'adresse directement aux gens. C'est on parle, le vouvoiement, mais une espèce de distance qui n'est pas toujours nécessaire, quoi, au contraire.
Mais... Ouais, mais en même temps, c'est beaucoup plus direct. Alors avant de parcourir, bien sûr, ton chemin de vie ensemble, on va prendre la route du week-end avec nos auditeurs. Et puis la chanson qui te va bien, et on en reparlera, bien sûr, c'est Manu Reva.
Allons-y.
Bon week-end à toutes, bon week-end à tous. Soyez prudents sur les routes. Vous avez tout le temps de passer une belle, belle soirée de la Saint-Valentin avec Monsieur Alain Chamfort. Alain Chamfort, Manu Reva, je suis heureux de te recevoir. Pour ceux qui ne se souviennent pas obligatoirement d'Alain Chamfort, pour ceux qui ont oublié ou pour ceux qui ne connaissent pas Alain Chamfort, avant de se plonger dans les ruisseaux, c'était en 1972. Ouais, 72. Il y a un signe de vie, signe d'amour.
Ça c'est
le début, ça.
Ouais, c'était le deuxième 45 tours après dans les ruisseaux. C'était vraiment la période clo-clo, quoi. Je travaillais chez lui pour lui écrire des chansons avec Michel Pellet.
Ouais.
Et puis très rapidement, il nous a proposé de les chanter nous-mêmes, quoi. Donc c'était un peu un départ qui n'était pas très envisagé, quoi. Moi, je me sentais pas la personnalité pour être en première ligne.
D'accord.
Donc voilà, j'étais là plutôt pour lui faire des chansons, puis c'était un peu irrésistible parce qu'il était assez convaincant, quoi.
Ouais, comment s'est passée la première rencontre avec Claude François?
Super. C'était une rencontre qui a été organisée par un auteur, une femme qui s'appelait Wim Bugy, qui lui avait écrit beaucoup de tubes d'ailleurs à l'époque, et puis Et il nous a reçus pour écouter un petit peu ce qu'on avait comme chanson. Enfin voilà, on cherchait à se faire connaître, à aller au-devant d'interprètes.
Oui.
Et puis il a écouté nos maquettes comme ça, et tout de suite il nous a proposé un contrat. Il était très rapide, il était quelqu'un qui est très instinctif comme ça, donc il nous a engagés. On avait un petit bureau après dans son hôtel particulier pour lui équipé avec des magnétos, des instruments de musique et tout, pour lui écrire des chansons toutes les journées.
Mais au début, donc, tu n'avais pas de velléité de chanteur?
Non, parce que j'avais eu déjà j'avais essayé déjà quelques tentatives.
Avec les Checkers Douille. c'est quand même extraordinaire, les Checkers Douille.
Ah, bah, oui, les Checkers, mais après, c'était terminé avec les Mods.
Oui.
Et puis.
Ça t'avait pas plus que ça?
J'aimais bien le groupe, être en groupe, ça me plaisait.
Ouais.
Mais plus tard, dans les années 68, 69, j'ai Dick Rivers qui m'a proposé de chanter.
Mm-hmm.
Et j'ai fait quelques 45 tours sous mon patronyme.
Ouais.
Et qui n'ont pas marché et qui m'ont mis en face de mes limites d'une situation qui n'était pas la mienne, quoi. Je me sentais pas à ma place.
C'était le phénomène du public, c'était le phénomène du micro, c'était quel phénomène?
C'était déjà les médias, parce que,
ouais.
Alors quand ça marche pas, c'est horrible, quoi. Quand ça marche pas, tes disques marchent pas, tu te retrouves, personne te connaît, t'es face à Philippe Bouvard, c'est juste l'horreur, quoi.
Et tout ça pour ça, quoi.
Et oui, c'est ça, tout ça pour ça.
Pleurer au ventre, insupportable, et de se justifier en permanence.
Oui, et puis on se dit, bon, bah, on n'est pas à notre place, là. Donc, ça m'avait un peu dégoûté, et petit à petit, je m'étais mis en tête que c'était pas fait pour moi, que j'allais mieux que je fasse des chansons pour les autres.
Voilà. En revanche, avec les disques flèches, ça continue avec Claude François en 73. Là, c'est quand même la révélation. On fait l'amour en France.
Le soleil qui brille, les oiseaux qui chantent.
Ça, c'est chatoyant, c'est la nostalgie positive. On continue avec Je pense à elle, elle pense à moi.
Je pense à elle, elle pense à moi.
Là, c'est le et au clou de sifflet, le train s'en va. Là, pour moi, j'étais sur les autotamponneuses à Toulouse. Mais là, c'est le début de la carrière, là, non?
Ah bah oui, là, c'était très rapide, finalement, grâce à Claude, hein, parce que c'était mon producteur, donc il était très soucieux de tout faire pour que ça marche. Et il m'entraînait partout dans ses premières parties, il mettait dans son magazine Podium, il m'entraînait dans ses émissions de radio, à la télé. Enfin, j'étais vraiment derrière quelqu'un, c'était une locomotive, Claude, donc il m'entraînait. Et évidemment, avec une grande partie de son public m'a accepté assez rapidement, donc c'est devenu...
Au début, c'était un bon camarade, après ça, c'est détérioré, mais on va en reparler, bien évidemment, au fil de ta carrière, qui continue l'année d'après, donc là, on y va. Adieu, mon bébé chanteur.
Adieu mon cœur, mon bébé chanteur.
Ça continue avec Madonna, là je la trouve extraordinaire. Non mais Madonna en 74, il faut expliquer qui est Madonna, ce que ça fait dans ton cœur. C'est toi qui écris les paroles?
Non, c'était Jean-Michel Riva, qui était un auteur qui est toujours en vie d'ailleurs, avec lequel j'ai écrit pas mal de chansons, le bébé chanteur, entre autres.
Ouais.
Claude François avait écrit L'amour en France, dans les textes. Enfin, à l'époque, je travaillais avec des gens très différents, mais c'était des gens qui étaient... porteur de tube à l'époque, quoi. Donc l'idée, c'était de faire des chansons qui marchent, hein. Avec Claude François, c'était vraiment ça qu'il avait en tête et qui nous avait finalement appris, quoi. C'est-à-dire, l'idée, c'était de faire des chansons formatées qui soient directes, qui aient la chance de pouvoir séduire les gens rapidement, quoi.
Il paraît qu'il avait une exigence insupportable quand même, non?
Bah, il l'avait au moins pour lui déjà.
Ouais.
Oui, c'est-à-dire qu'il était en boucle sur le maintien de son succès, sur la volonté d'être toujours un numéro un.
Sur la plastique, sur l'élégance, sur attention les photos, attention les filles, etc.
Il n'y a rien qui lui échappait. Il était le roi du marketing avant que le marketing envahisse le show business.
Madonna, on parle de qui?
Madonna, non, c'était... Alors, je pense pas que ce soit lié à Madonna.
Oui, il me semble aussi, parce que c'était un peu tôt, là.
Oui, absolument.
Ouais.
Bon, c'était un prénom, je sais pas, qui a surgi dans la tête de Jean-Michel Riva.
D'accord.
Mais ça sonnait bien, quoi, donc... Ça n'a pas été au-delà de ça.
On continue en 75, et alors là, il y a une histoire de fou. On va commencer par Barry Manilow, qui chante ça.
Baby, I love you.
Ça, c'est dingue. Ça, c'est la nostalgie comme on l'aime, sur la route du week-end. En plus, pour la soirée de la Saint-Valentin, ça peut pas mieux tomber. ça se transforme en temps qui court comme ça. Ça, je trouve ça génialissime.
Ah, c'est une belle chanson. Ouais. Moi, quand j'ai entendu la version de Barry Manilow, j'étais en train de chercher une nouvelle chanson et elle m'a paru tellement proche de ce que j'aurais aimé trouver que je me suis dit, bon, bah, les services sur un plateau, faisons l'adaptation. Voilà, c'était vraiment ce que j'aurais envie d'avoir composé moi-même, quoi.
La fragilité de la voix, là, Alain, moi, je l'ai réécouté en entier. Ouais. Écoute ça, vas-y, monte le son. Il y a une sincérité, une pureté dans la voix.
Ah ouais.
À chaque fois, c'est cette sincérité qui te caractérise, mais là, on est quand même, je pense, en 73-75, hein, de mémoire,
oui,
si je me trompe. Parce que après, ça continue avec ce titre, et regarde ce que ça donne en 76.
Ah oui.
C'est le même morceau, quoi.
Et c'est là où c'est devenu un tube.
Donna Summer,
ouais,
qui chante Could It Be Magic. Écoutez ça, moi je trouve ça quand même dingue. Le parcours de cette chanson,
ouais.
C'est dingue. Ça continue quand même, parce qu'évidemment tu as la référence. La même chanson après par le boys band Alliage, ça donne ça. Elle est dingue cette histoire de cette chanson, non?
Ben oui, quand une chanson est réussie, elle peut traverser les années. C'est celle-ci l'a prouvé. Finalement, contre l'avis de Claude, qui n'était pas du tout, d'accord pour que j'enregistre.
Alors, c'est intéressant. Pourquoi Claude François ne veut pas que Alain Chamfort enregistre vers 75, d'ailleurs, le temps qui court?
Je ne sais pas. Je pense qu'il n'y croyait pas à cette chanson.
Mais toi, tu y croyais puisque tu as eu un coup de cœur.
Oui. Puis j'ai tenu tête et puis finalement j'ai réussi à l'enregistrer. Mais c'était un peu contre son vouloir, quoi. Et je ne sais pas. La raison, il m'a pas vraiment expliqué. Je pense qu'il trouvait que c'était peut-être trop tôt pour moi de faire ce genre de chanson. Enfin, mais bon, moi, elle a trouvé sa place effectivement, comme tu dis, avec le temps. C'est-à-dire, c'est une chanson qui, au départ, quand j'ai enregistré moi, elle a pas marché vraiment d'une manière très 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 puissante, je dirais. Mais avec les années, elle a trouvé sa place. Et maintenant, c'est presque une des chansons que les gens préfèrent de moi, étonnamment.
Eh ben, on va l'écouter dans son intégralité, Le Temps qui court, parce que moi, je suis fan de cette chanson. Je suis un peu fan de Alain Chamfort, que nous recevons sur la route du week-end, sur Nostalgie. On va continuer à se tutoyer en cette belle soirée de la Saint-Valentin. Bonsoir, soyez prudents si vous allez au restaurant accompagner votre beau ou votre belle, d'ailleurs, en cette belle soirée de la Saint-Valentin. Lui va être sur les routes de la victoire de la musique. Ça va être intéressant, parce que ce soir, juste sur France Télévisions, eh ben, en direct, monsieur Alain Chamfort, qui est mon invité, c'est troublant d'être invité à des réceptions comme les Victoires de la Musique. Il faut s'habiller, il faut se maquiller, il faut être beau.
C'est pas tellement ça qui est le plus important, c'est le fait d'être sélectionné, qu'un album, enfin moi je suis dans les deux catégories, entre l'album et le clip. Donc bon,
avec l'impermanence.
Voilà,
ouais.
Et sur le nombre d'albums qui sont édités chaque année, se retrouver... je sais pas, on est 4 ou 5, je sais plus, à l'arrivée.
Ouais.
Bon, voilà, c'est déjà une jolie satisfaction. On verra ce que ça donne. Mais enfin, le fait d'y être déjà présent, donc, me semble important.
C'est une reconnaissance, c'est important, la reconnaissance, ou pas, du métier. Le public, la reconnaissance, elle est là depuis toutes ces années. Et voilà, on est accroché à vos lèvres, à vos mots, à vos paroles, à vos chansons, à tes chansons, pardon. Mais en revanche, la reconnaissance du métier, ce soir, l'impermanence, et puis à la création audiovisuelle avec La Grâce,
ouais.
ce soir, pour ces Victoires de la Musique. Le métier, tu le ressens comment?
C'est compliqué, c'est complexe, parce qu'à la fois on est bien sûr heureux que ces gens, ces professionnels quand même, normalement ont l'oreille, ont la connaissance et l'expérience pour savoir ce qu'ils font. Donc, mais en même temps, il y a tellement de choses qui sont qui prises en compte, qui ne sont pas uniquement sur la qualité d'un album, mais sur l'impact qu'il a eu sur les gens, sur le nombre de streams. Enfin, il y a beaucoup d'éléments qui sont pris en compte, et donc ça devient un peu une usine à gaz pour sélectionner à l'arrivée, quoi, pour remettre les prix.
Il y a une, il y a une fierté quand même quand on le reçoit. Quand on le reçoit pas, quand même, on est frustré. Mais ça fait partie d'un parcours dans ce métier quand même, avant la reconnaissance.
Oui, oui, bien sûr. Je ne cacherai pas ça. Je serais très heureux si je repars avec une victoire de quelle qu'elle soit. Et puis je serais pas trop amer si je, c'est pas le cas, parce que je connais la façon dont les choses se passent. Et c'est pas indispensable non plus. Enfin, je veux dire, voilà, ça fait partie
de la route.
De la route, voilà. Il faut savoir prendre les choses comme elles arrivent, ou si elles n'arrivent pas, et savoir les accepter aussi. C'est pas très très grave.
Alors, on s'était arrêté en 75 avec Le Temps qui court, et puis Le Temps court super bien parce que après on rencontre Gainsbourg, et ça donne un duo avec la très belle Jane Birkin.
J'ai compris ta philosophie, Baby Lou.
Baby Lou.
Oui, c'est une chanson qu'elle a reprise plus tard. Alors après, on a fait un duo pour sur cette chanson pour les Carpentiers,
je m'en rappelle. Maritier et Gilbert Carpentier.
Mais ça, c'est ma propre version, et elle a fait sa version.
D'accord.
Plus tard, oui.
La rencontre avec Gainsbourg, c'est quand même, je suis désolé de te le dire, mais tu as quand même des personnalités en face de toi. Il y a eu effectivement Dutronc, il y a eu Gainsbourg, il y a eu Claude François. Excuse-moi quand même, on se mouche pas du coude.
Alors c'est des gens qui ont été indispensables, quoi, dans mon trajet. Et qui se sont trouvés sur ma route. Alors Gainsbourg, lui, vraiment, c'était une envie personnelle d'aller lui proposer mes musiques.
Pour savoir. Toi qui fais la démarche.
Oui, oui, oui. Je reviens des États-Unis avec un album, la partie musicale enregistrée, et je pensais que c'était nécessaire de faire appel à un auteur qui sache s'adapter, qui sache comprendre la musique que je venais d'enregistrer, et qui est cette modernité. Qui devait marquer, être un marqueur pour moi par rapport à mon passé, quoi. Voilà. C'est-à-dire que toute la période qu'on vient d'évoquer, j'étais à la fois heureuse de la traverser.
Sans flagorner ou sans dénigrer quoi que ce soit, c'était quand même un peu le chanteur à minette au début.
Bien sûr.
On se dit les choses franchement. Et après, donc, avec la rencontre de Gainsbourg, ce côté fantasque, et on va beaucoup plus loin dans le style, dans la personnalité musicale. Là, t'avais envie de te démarquer de cette image.
J'avais plutôt envie de me démarquer de la première période dans laquelle je m'épanouissais pas. C'est-à-dire, j'étais content de connaître le succès, de vivre de mon métier, d'avoir trouvé une place, d'avoir une notoriété, etc. Mais j'avais le souci de me mettre en phase avec ma personnalité réelle. Et donc, il fallait que ça passe par un rejet un peu brutal de cette première partie, et de trouver vraiment une rupture. Avec Serge, je savais que ça allait la créer. En même temps, c'était pas non plus ma place, là. Donc, il fallait continuer. Il fallait juste marquer un point de différence, et que les gens comprennent que j'avais envie d'évoluer, quoi, tout simplement.
La rupture avec Claude François, elle a été violente, non? Parce qu'il était quand même très très possessif, très jaloux, limite insupportable. On a vu des documents, des documentaires un petit peu partout. Je me rappelle avec Tiki Olgado, il le traitait comme n'importe quoi. C'était.
Ils peuvent avoir des côtés un peu excessifs, ouais, c'est vrai.
Et quand il y a la rupture avec Claude François, comment ça se passe avec lui?
Oh, bah là, c'est-à-dire que bon, il y a une chose qui est intervenue, c'est une situation contractuelle. Entre lui, une volonté de récupérer une partie de son catalogue qui était distribué par une major. Enfin, tout ça, c'est-à-dire que la major a mis en compte ma liberté et ma signature pour pouvoir organiser leur deal entre eux. Et ça a contribué au fait qu'il m'ait lâché, quoi.
Il t'en a voulu ou pas?
Oui, un peu, mais pas trop, parce qu'il avait d'autres soucis à devoir gérer sa propre
image,
et puis la maison de disques.
C'était les disques Flèches toujours à l'époque?
Oui, c'était son label sur lequel il se produisait lui-même, il produisait quelques autres artistes dont j'ai fait partie, mais c'était pas un homme d'affaires, contrairement à l'image qu'il aimait donner de lui. Et donc, heureusement qu'à un moment donné, il a rencontré des gens pour venir administrer sa boîte et remettre les choses à leur place. Enfin, c'était pas un gestionnaire, quoi, du tout.
Donc, mais c'était un vrai entrepreneur quand même, qui avait des idées. Il s'inspirait énormément des États-Unis, de la Motown, etc. Tout ce qui arrivait des États-Unis, c'était bon à prendre.
Oui, puis il avait un contact à New York qui lui envoyait les hit parades, les entrées de chansons.
Les hit parades.
Oui.
C'était l'époque de Guy Lux.
Billboard.
Oui, c'était ça.
Et il suivait de très près l'évolution des chansons dans les classements américains pour pouvoir les adapter lui-même rapidement. Il avait aussi des copies des émissions de shows américains avec toutes les chorégraphies, les Jackson 5 et tout ça pour pouvoir les reproduire avec les Claudettes. Enfin, il était très organisé bien avant la plupart. C'était un chanteur, mais qui avait aussi le sens des affaires et de la gestion de sa propre carrière, quoi. Oui.
Alors ensuite, on continue. Monsieur Alain Chamfort est parmi nous ce soir, en cette belle soirée de la Saint-Valentin. Là, il y a un élément déclencheur quand même. On commence avec Adieu California, qui va se transformer très rapidement. Pour l'heure, c'est Adieu California. Il me regarde bizarre, le Chamfort. Vous savez comment il me regarde, le Chamfort? Écoutez
mais
ça.
Il veut en venir.
Adieu California.
Ouais, on était vraiment à côté de tout là.
Non, mais vas-y, continue à mettre ça parce que moi, ça c'est Alain Chamfort. Évidemment, les auditeurs de Nostalgie connaissent bien la suite de l'histoire. Là, quand même, Adieu California, ça vient d'où? Parce qu'après, il y a la transformation dans Manu Reva. Ah,
ça vient de Serge, hein, qui c'était sa première proposition, j'étais pas du tout convaincu. Mais bon, j'avais enregistré quand même une version, simplement pour démontrer que c'était pas la solution. Et la maison de disques s'est précipitée dessus pour la sortir. D'ailleurs, s'il y a une version, c'est qu'on a pu la trouver.
Tu te rappelles de cet enregistrement? T'es mal derrière le micro ou pas quand tu interprètes California?
Je me souviens en étant déçu, quoi, par le texte qu'il m'avait écrit et en lui faisant prendre conscience de mes réserves. En même temps, c'était le meilleur texte qui avait été écrit sur cette musique, donc j'y suis allé. Mais je le lâchais pas. Je disais, tiens, j'écoute vraiment, il faut que tu trouves mieux, parce que là, on passe à côté. Moi, je trouvais que la musique était une forme d'évidence, mais le texte n'était pas au niveau, quoi. Donc,
et il a su écouter par rapport à Adieu California, tes propos,
ouais,
parce que toi, tu étais quand même auteur aussi.
J'étais compositeur.
Compositeur. Hein,
ouais. Co-compositeur avec Jean-Noël, ouais. Chalet, d'ailleurs. Et après, ça a tourné dans ça. Je pense que Serge était très conscient qu'il n'était pas à la hauteur avec ce texte. Et puis, donc, ça devait le perturber lui-même. Et à la suite d'un dîner qui a été organisé avec des skippers et tout, parce que Jane a été approchée pour être la marraine d'un bateau. Et à ce moment-là, ils ont évoqué la disparition d'Alain Colas. Il a entendu le nom Manu Reva et il a dû l'adapter dans sa tête sur ma musique. Et le lendemain, il m'a appelé en me susurrant Manu Reva au téléphone. Et j'ai trouvé que c'était tout de suite évident. Mais indépendamment, je savais même pas que c'était le nom du bateau. Et après, petit à petit, il m'a expliqué. Alors, dès qu'il m'a dit, bon, c'est un hommage. Je dis attention, comme ça, on va pas récupérer un fait divers comme ça.
Oui, pour les auditeurs, voilà, c'est l'hommage à Alain Colas, ouais. Disparu en mer à cette époque-là.
Absolument. Oui. Donc, les recherches avaient été abandonnées depuis 6-8 mois.
Oui, c'est ça.
Donc, on réutilisait, enfin, on remettait en surface une actualité un peu triste, bien sûr. Et donc, j'avais peur qu'on donne l'impression de tirer la couverture.
Ouais,
exactement. Bon, il m'a dit, ne t'inquiète pas, ça sera un petit hommage. Et ce qui était le cas, finalement, à l'arrivée, je trouvais que c'était
un bel honneur, et ça a donné ça, évidemment. Les histoires des chansons, c'est quand même extraordinaire. Et puis après, il y a le géant qui arrive la même année, en 79. Hein, si je me trompe, tu me le dis, il n'y a pas de souci.
Non, c'est ça, c'est
hein, c'était géant, et alors là, quel géant. Là, toutes les femmes tombent amoureuses d'un chanteur.
Et les papas, parce que c'est surtout la réaction face à la naissance d'un premier enfant. Quoi.
Ouais, écoutez ça. C'est ton histoire personnelle?
Oui, parce que ma fille avait 3 ans à ce moment-là et c'est vrai que j'avais envie d'exprimer un petit peu ce qu'on ressentait quand on découvrait la paternité et puis de quelle manière pouvait nous regarder cet enfant comme ça, avec sa toute petite taille, son espérance et puis un papa qui lui paraît quelqu'un sur lequel on peut se reposer totalement, qui lui paraît comme un géant.
Exactement. Et puis ça fait fantasmer les femmes de se dire le papa de mon enfant est comme ça aussi.
Peut-être, oui. Enfin, je ne sais pas.
Oui, mais si, par mimétisme, ouais. Obligatoirement. Ouais. Et puis, alors là, on va faire une petite pause musicale de Sergio Mendes.
Ah oui.
Parce que Sergio Mendes, sur la route du week-end, sur Nostalgie, en ce soir de la Saint-Valentin, ça peut le faire fort, 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 parce qu'on va parler juste après de Chasseur d'Ivoire. Mon invité est Alain Chamfort. Je suis très, très heureux de t'avoir en face de moi. Je t'en sens tout souriant avant de partir aux Victoires de la musique, juste après l'interview. Je trouve ça super sympa. Ne lâchez surtout rien. Restez avec nous. Reprise, Sergio Mendes. C'est quand même un parcours extraordinaire, cette chanson Chasseur d'Ivoire que nous entendons là juste maintenant, parce que tout le monde a repris ce Chasseur d'Ivoire. Tu l'as pas en français ? Quelle douceur dans la voix.
Oui, c'est une chanson qui me plaisait bien aussi. Et que, je travaillais avec un ingénieur du son aux États-Unis et il se trouvait que c'était l'ingénieur qui faisait les concerts de Sergio Mendes.
Ouais.
Et il lui a fait écouter la chanson. Sergio lui a demandé ce qu'il était en train de faire à cette époque-là. Donc il était en train de mixer mon album. Il lui a fait écouter mon travail et Sergio a aimé la chanson. Et donc il en a fait sa propre version et à la même période il y a une autre chanson qui s'appelait Malaise en Malaisie qui a été reprise par Manhattan Transfer qui était un groupe aussi de
ouais,
vocal
ouais.
De la même manière c'est la chanson qui a fait son travail quoi. C'est moi je connaissais pas ces gens et la chanson
mais à la base c'est toi qui l'écris
oui mais j'ai pas fait de démarche quoi, c'est-à-dire c'est la chanson qui a été entendue qui a séduit ces gens là quoi directement.
Et après, l'idée est venue d'où, le Chasseur d'Ivoire ?
C'est encore Serge, hein, le texte.
Ah ouais ?
Oui, bien sûr. Mais c'est
Le Gainsbourg.
C'est le dernier album qu'on a fait ensemble, qui s'appelait Amour Année Zéro, et sur lequel, dans un premier temps, il m'a proposé une liste de titres, dont il y avait Chasseur d'Ivoire, il y avait Malaise en Malaisie, il y avait Bambou, etc. Et il y avait même une chanson qui s'appelait Souviens-toi de m'oublier, et qu'il a été proposé après à Catherine Deneuve. Donc ça a été l'occasion de mettre un peu fin à notre collaboration.
Pourquoi ? Il y a eu un clash, il y a eu quelque chose, vous étiez fâché
C'est pas ça, il était un peu fatigué. C'était la période où il était complètement dans son succès aux armées, etc. Mm-hmm. Qu'il a pas très bien vécu finalement, il n'était pas prêt et il a mis en place ce Gainsbourg, voilà, qui est un personnage un peu compliqué parce que c'était sa manière à lui de faire face à tout ça. Puis après, Jane l'a quitté, donc il était dans une très mauvaise période et c'était compliqué de communiquer avec lui. Voilà, il se réfugiait dans l'alcool, etc. Donc ça a mis fin à notre collaboration simplement parce qu'il était plus là, quoi. Il était parti dans son truc à lui.
Ça doit faire de la peine quand même parce que on se dit il y a quelque chose qui s'envole. Évidemment, on tourne une page et il y en a une autre qui arrive. Mais c'est quand même Serge Gainsbourg. On culpabilise pas de le laisser partir en fumée comme ça.
Bon, c'est triste, oui, c'est triste, mais en même temps, on peut pas faire grand-chose. C'est un choix qu'il a fait lui. Moi, j'avais pas les capacités de le sauver, quoi. Malheureusement,
de le retenir.
Mais plus personne, à part peut-être Bambou, a certainement contribué beaucoup à ce qu'il retrouve une sorte d'équilibre, etc. Mais c'était une période difficile pour tout le monde, et principalement pour lui, d'ailleurs.
On continue sur le chemin du succès sur la route du week-end de Monsieur Alain Chamfort avec en 1983 Bon baiser d'ici, j'adore. Ça j'adore. Non mais ce rythme là.
Ah oui, c'est sympa. Oui.
Alain qui continue à se dandiner, c'est le cas de le dire, tel un dandy. Hein? C'est quelque chose qui me prend énormément ça. Ce voyage de Bon baiser d'ici, quoi.
Ah oui, alors ça, c'est un album que j'ai fait à la suite ma collaboration qui se termine avec Serge.
Ouais.
J'ai rencontré Philippe Bourgoin, qui était un auteur, producteur qui venait de faire Chagrin d'amour, Chacun fait ce qui lui plaît. Mm-hmm. Et on a décidé de faire tout l'album ensemble, voilà, ça s'appelait Secret glacé. C'est un album un peu particulier, qui a été enregistré avec un Fairlight, une espèce d'usine à gaz qui était un nouvel instrument qui permettait de de programmer, de sampler, de tout faire sur un seul instrument.
Ouais. Une espèce de sampleur, quoi.
Oui, un gros sampleur, séquenceur en même temps, enregistreur. Enfin, vous voyez, c'était vraiment.
C'était un peu la révolution à cette époque-là, dans les années 80, non?
Oui, c'était un nouvel instrument qui se mettait en place et qui permettait aux gens de produire intégralement avec un seul objet, quoi, voilà. Et donc je l'ai fait en Angleterre, cet album, dans un studio qui avait été ouvert par John Congos, qui était possesseur de cet instrument-là. Et à la suite, il avait fait un gros tube dans les années, je sais plus, 70 aussi, ce garçon.
D'accord.
Et on a travaillé ensemble sur cet album.
Cet album qui s'appelle Secret glacé ouais. Et où on a un joli rendez-vous quand même.
Ouais.
Ça, j'adore.
Ouais, moi aussi, ça va bien. Ouais. Ouais, c'est toute une période. J'ai travaillé beaucoup avec les Belges aussi à ce moment-là. J'ai fait un concert à l'Olympia avec toute une équipe belge. Il y avait un type qui a fait des décors, j'avais une styliste qui avait créé des costumes, il y avait des danseurs, enfin, j'étais parti dans un espèce de spectacle global, comme ça, qui était très beau.
Et, une espèce de comédie musicale de la ville.
Oui, une espèce de volonté, oui, de pouvoir faire juxtaposer sur scène à la fois, ce qui n'avait pas été vraiment le cas encore à l'époque, mais après plein de gens l'ont fait bien sûr, mais pas sur mon exemple, mais parce que c'était un peu dans l'air du temps, j'imagine. Et donc j'ai fait un espèce de spectacle global comme ça, avec de la musique, de la danse, un peu de théâtre, enfin, et des décors et des costumes.
Et les Tifortou, moi je m'en fous, quoi. J'adore les paroles et je trouve ça fantastique. On fait un petit bond et là on arrive sur l'album Tendre Fièvre avec évidemment Traces de toi. Bang bang bang. On continue avec La fièvre dans le sang. Là c'est vraiment.
Ouais. La fièvre dans le sang.
J'adore, je suis fan. Non mais c'est voilà, on traverse la vie avec toi. À chaque fois, il y a des images hyper fortes. On se rappelle où, quoi, comment, avec qui, à un instant T. Et puis là, on arrive sur quelque chose de dingue, assez dingue. Revenir avec vous, déchaîne-moi. Là, il y a un instant suspendu qui va se passer sur Nostalgie. Effectivement, on écoute Barry White. Mais ça, je trouve ça fantastique. I can't get enough of your love, baby. Ouais. Tu vois ça? Alors ça, c'est Nostalgie. Monte un peu le son, parce que là, c'est extraordinaire. Là, le moment suspendu, les auditeurs vont se dire, mais qu'est-ce qu'il y a avec Barry White? D'où vient cette idée? Car écoutez bien, la version de Alain Chamfort, si présent, notre invité sur Nostalgie ce soir, sur la Saint-Valentin, je pense qu'il y en a 95% qui ne connaissent pas cette version.
Déchaîne-moi.
Ouais.
Je peux plus voir ce mur auquel je suis accroché.
Non mais c'est fantastique ça.
Bah c'est la deuxième adaptation que j'ai faite, quoi. J'ai fait Le temps qui court.
Oui c'est ça, oui, on en a parlé tout à l'heure, ouais.
Et celle-ci, moi j'étais évidemment très très sensible au travail de Barry White, comme je l'étais à celui de Stevie Wonder et d'un tas d'autres artistes afro-américains. Et j'avais retenu pour l'enregistrement d'un de mes albums le bassiste et le batteur de Barry White.
Ouais.
Voilà, et je sais pas, ça me paraissait lui rendre un petit hommage comme ça, c'était un peu prétentieux peut-être, mais enfin j'avais envie de faire comprendre que c'est partie de ma culture musicale et de mes goûts, quoi. Et donc Boris Bergman a fait une adaptation qui était rigolote et finalement et j'ai travaillé aussi avec Wally Badarou qui a fait la production de cette chanson.
Déchaîne-moi. Écoutez, on se déchaîne de toute manière. Et puis après, on va parler évidemment de ce côté maintenant compositeur et producteur pour les autres, parce qu'il y a À cause des garçons.
Ouais.
À cause des garçons, c'est ça. Et c'est toi, ça.
Oui, J'avais écrit la chanson, mais produit la. J'étais devenu producteur à ce moment-là.
Oui, non, mais c'est ça. Donc là, il y a une nouvelle carrière qui s'annonce.
Oh, pas spécialement, mais enfin, il y a un essai, en tout cas, un essai, parce que c'était la période justement où on s'était reparti un petit peu sur des espèces de succès comme ça, un peu rapide. C'était un peu le début des faux groupes, des trucs un peu du marketing, un peu, etc. Et donc, et moi, j'avais deux copines qui cherchaient à faire une chanson. Enfin, j'avais envie de devenir chanteuse le temps d'un été.
Ouais.
Et donc.
Mais c'était voilà, super mignon, c'est une belle expérience. Oui, tout le monde a lancé là-dessus quand même.
Ouais, ça a bien marché.
Ouais.
Après, elles n'étaient pas faites pour ça. C'était pas prévu pour durer dans le temps, mais en tout cas, on avait envie de marquer le coup et de réussir ce coup-là. Ça a été le cas, quoi.
Dans un instant, on va parler évidemment de ton actualité, outre ces victoires de la musique ce soir sur France Télévisions. Pour l'heure, excuse-moi, on va prendre la version originale excuse-moi, comment ça s'appelle en français? Ah oui, Déchaîne-moi.
Ah oui,
pardon, excuse-moi, tu vois, c'était quand même une histoire de dingue. Voilà, on va prendre la version originale pour cette belle soirée de la Saint-Valentin. Effectivement, version originale, Barry White, juste pour le plaisir de la route du week-end.
On se tutoie sur Nostalgie.
Avec Jean-Luc Reichmann, tous les vendredis soirs, 19h-20h. Et à tout moment, en podcast, sur l'appli Nostalgie.